peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligariques à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Bien, bonjour Yannick, tu es éleveur maraîcher, tu as fait partie de la Confédération Paysanne et tu en es parti. Tu as fait partie de collectifs qui se sont battus contre le puçage des animaux et contre les normes administratives qui étouffent les paysans. Tu as écrit « Le paysan impossible » et nous souhaitons parler aujourd'hui avec toi du mouvement contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, et de sa gestion par l'État. Salut Yannick. On va évidemment parler avec toi de ce mouvement d'agriculteurs qui a lieu depuis à peu près une quinzaine de jours d'une manière un peu plus forte, mais qui a commencé depuis cet été et puis de toute manière qui est assez récurrent depuis quelques années. Donc on va parler de la dermatose nodulaire contagieuse, dans un premier temps peut-être en la décrivant très très rapidement pour en venir plus précisément à sa gestion.
Je peux essayer de dire deux mots sur cette maladie. C'est du coup les symptômes de cette maladie, c'est des nodules, en fait, des boutons sur les vaches. Ça ne touche que les vaches. Hein. Et une fièvre qui peut affaiblir beaucoup la bête. Mais ce qui est important comme à retenir, c'est qu'elle est, en tout cas dans la littérature vétérinaire, réputée peu mortelle. Elle a des conséquences économiques forcément sur les fermes, mais a priori, c'est pas un drame d'avoir cette maladie sur les exploitations, et elle n'est pas transmissible à l'homme. Maintenant, ce qui est absolument surprenant, c'est la réaction des États face à une maladie qui est plutôt anodine, et du coup, il faut regarder d'où vient en fait ces injonctions à gérer une maladie plutôt anodine avec des moyens aussi radicaux, quoi.
Les moyens là qui ont été employés, c'est l'abattage systématique de l'ensemble du troupeau, ce qui est quand même qui représente une violence assez incroyable. Alors j'ai juste envie de revenir rapidement sur le fait que c'est pas la première fois que ce type de gestion est appliqué à une maladie, puisqu'on a vu les moutons, les poulets, les canards. Enfin bon, c'est quand même assez récurrent et à chaque fois c'est l'abattage systématique qui est proposé.
Oui, c'est pour ça qu'on peut quand même être surpris de ce mouvement agricole, pourquoi il prend une telle ampleur aujourd'hui, alors que c'est des pratiques quand même très régulières, et que notamment la gestion de la grippe aviaire depuis une dizaine d'années en France donne lieu à des abattages des cheptels systématiques dès qu'une bête est réputée malade. Alors c'est pas le cas dans toutes les maladies, hein, parce que par exemple la fièvre catarrhale ovine qui attaque à la fois les brebis, les chèvres et les vaches, elle ne donne pas lieu à ce type d'abattage systématique dès qu'il y a contamination. Par contre, c'est le cas pour la tuberculose, c'est le cas pour la brucellose. Et c'est pour ça que c'est à la fois pour les agriculteurs, mais encore plus pour des non-agriculteurs, c'est très compliqué de comprendre c'est quoi les enjeux de ce type de mesure, de l'abattage total, alors que ça semble pas une évidence pour contenir les maladies. Parce que, par exemple, sur la dermatose nodulaire, elle s'appelle dermatose nodulaire contagieuse, alors que précisément elle n'est pas contagieuse, parce que c'est une maladie qu'on dit vectorielle. Elle est transmise par des insectes piqueurs. Il n'y a aucune systématicité dans la transmission de la maladie. En tout cas, c'est pas par contact, c'est pas par proximité qu'elle se transmet. Et du coup, il y aurait possibilité en fait de gérer totalement autrement et de mettre les animaux sous surveillance, les isoler, plutôt que de procéder à un abattage systématique. Et là, je suis obligé de rejoindre la mobilisation agricole aujourd'hui pour se scandaliser d'une telle pratique qui ne se justifie pas du tout pour endiguer une maladie, d'autant plus que cette maladie, pour l'instant, reste avec des effets assez anodins, parce que moi, je n'ai pas du tout entendu parler une seule fois dans le cours de ces contaminations d'élevage de bêtes qui étaient dans un état d'affaiblissement important. Du coup, il y a lieu de se poser des questions sur qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui autour de ça.
Alors, on va voir les enjeux autour de l'abattage. On a l'impression, parce que c'est pas forcément ce qui est demandé par l'ensemble du monde agricole, mais les demandes, c'est laissez-nous vacciner. On a eu Antoine la semaine, il y a 15 jours, sur cette question-là. Et visiblement, même sur la Confédération paysanne, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question de la vaccination généralisée. Alors qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des troupeaux vaccinés, mais qui ont quand même été abattus parce qu'il y avait eu une vache contaminée. Et on n'est même pas sûr, visiblement, des effets secondaires de cette vaccination sur les vaches, parce qu'il y a des choses là qui sont en train de remonter sur l'aveuglement de petits veaux qui viennent de naître, etc. Mais en même temps, il n'y a pas d'expertise, on ne peut pas savoir si ça marche, si ça ne marche pas, puisqu'il n'y a pas de, recherche.
Là aussi, c'est pas nouveau, hein, parce que les réactions étatiques, la plupart du temps, en fait, quand les vaccins existent, tentent d'imposer la vaccination pour ce type de maladie. Sur la fièvre catarrhale ovine, dans les années 2000, ça a été une obligation qu'on a réussi à faire. Les mobilisations agricoles avaient réussi à l'époque à faire revenir en arrière l'État et à ne pas rendre obligatoire la vaccination. Mmh. Depuis, la fièvre catarrhale ovine, qui sévit depuis 2-3 ans en France, donne lieu à des campagnes de vaccination massive où il n'y a plus d'obligation, mais étonnamment les agriculteurs y vont d'eux-mêmes très facilement. Or, on sait sur la fièvre catarrhale par exemple qu'il y a des effets secondaires très très importants et que le gain n'est pas du tout assuré. De même, lors de la crise de la grippe aviaire il y a 2-3 ans, l'État a à nouveau sorti de son chapeau la vaccination. Tous les troupeaux de canards en France ont été vaccinés. Résultat, aujourd'hui, la grippe aviaire repart comme si de rien n'était, et notamment dans les élevages de canards. Donc, ces questions de vaccination en élevage, elles sont pour le moins à mettre en question. Et ce qui est étonnant là aujourd'hui, c'est que la profession, dans son ensemble, demande, en tout cas par la voix des leaders syndicaux, demande une vaccination généralisée. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est quand on suit l'histoire, par exemple, de l'abattage du troupeau dans le Doubs, troupeau qui était vacciné il y a un mois de ça, là. En fait, la réaction scandalisée des syndicats, c'est de dire c'est absurde d'abattre un troupeau vacciné qui, sous-entendu, s'il est vacciné, devrait faire face à la maladie. Or, de fait, j'ai entendu personne se poser des questions, on dit mince, mais en fait le troupeau il est vacciné, mais il est quand même contaminé par la maladie. Donc la première réflexe qu'on pourrait avoir avec du bon sens, c'est de dire peut-être que le vaccin marche pas si bien que ça, quoi, en fait, et qu'à nouveau là la semaine dernière il y a un troupeau en Ariège qui a chopé la maladie et c'est à nouveau un troupeau vacciné. Et je trouve sidérant en fait qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une quinzaine d'années il y avait une évidence dans le monde agricole, chez une grande minorité d'éleveurs, de mettre en doute la vaccination et les intérêts pharmaceutiques qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, quelques années après la crise du Covid, on voit qu'idéologiquement, le travail de SAP a été fait et que plus personne ose critiquer en fait la vaccination. Et je trouve ça vraiment lamentable. Il faut regarder en fait quels sont les intérêts qu'il y a à défendre, soit d'un côté l'abattage systématique, soit la vaccination, et que si on regarde de près ce qui est en jeu là, c'est que c'est une gestion avant tout économique d'une crise sanitaire, parce que c'est la question des agréments à l'exportation pour les pays atteints qui est en jeu, et que pourquoi la France a décidé l'abattage systématique, c'est parce qu'au niveau international, où se gèrent les agréments à l'exportation, notamment sous critères sanitaires, la dermatose nodulaire fait l'objet d'une injonction des États à éradiquer immédiatement la maladie pour maintenir leurs agréments à l'exportation. Ce n'est pas le cas pour toutes les maladies, c'est-à-dire que par exemple la fièvre catarrhale ovine, on peut aussi perdre son agrément à l'exportation quand le pays est atteint, mais on ne le gagne pas par un abattage systématique. Alors que pour la dermatose, pour maintenir l'agrément à l'exportation, faut abattre. Donc c'est pour ça que l'État français, qui comprend les intérêts des agro-industriels pour continuer à exporter, a décidé l'abattage systématique. Comme ça, la France ne perd pas son agrément à l'exportation et on peut continuer à exporter en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord. Mais c'est là que ça devient subtil. Pourquoi les syndicats Coordination Rurale et Confédération Paysanne demandent la vaccination généralisée du troupeau? C'est que, normalement, la vaccination, dès qu'un pays vaccine, il perd son agrément à l'exportation, puisqu'il est compliqué de distinguer une bête vaccinée d'une bête malade. Et que du coup, les pays importateurs ont beau jeu de dire « Vous êtes en train, derrière la vaccination, de cacher le développement de la maladie et vous risquez de nous la filer. » Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'avec les tests PCR, il est possible de faire une distinction entre une bête vaccinée et une bête malade. Donc ce que demandent la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne, c'est qu'on vaccine et qu'on obtienne le rétablissement de l'agrément à l'exportation pays par pays. C'est ce que la France a déjà obtenu vis-à-vis de l'Italie et de la Suisse, c'est ce qu'elle est en train d'obtenir vis-à-vis de l'Espagne, c'est-à-dire que étonnamment, en fait, la vaccination va sans doute pas du tout arrêter le commerce international. Et c'est là, je trouve, tout le double discours de ces syndicats, Coordination Rurale, Confédération Paysanne, qui d'un côté disent ces maladies, la responsabilité en incombe essentiellement au commerce international qui déplace les animaux sur des milliers de kilomètres et du coup déplace par la même occasion les maladies. Donc il faut arrêter avec ce commerce international. Et dans le même temps, sont en train de demander des mesures sanitaires qui permettent de ne pas interrompre ce commerce international. Donc on voit toute l'absurdité politique de cette gestion et que, en fait, la coordination, comme la Confédération Paysanne, comme la FNSEA, sont dans une réelle politique à dire ensemble qu'il faut continuer le délire industriel d'exportation à travers le monde et qu'on n'est pas en train du tout de saper les causes premières de développement de ces maladies, quoi, qu'est le commerce international.
Donc il y a vraiment une gestion à court terme de la part des syndicats finalement gestionnaires, réformistes, qui n'attaquent pas les véritables causes et à la fois de la propagation des maladies, c'est-à-dire tout ce commerce international, des bestioles qui transitent en plus dans des conditions souvent assez dégueulasses d'un pays à un autre et qui sapent complètement aussi même l'économie locale. On n'a pas parlé des autres solutions qu'il pourrait y avoir entre l'abattage et la vaccination généralisée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une absence complète de concertation, d'écoute de la part des premiers concernés, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs, pour essayer de trouver, de voir des solutions communes. Dans l'île de la Réunion, il y a eu un problème de dermatose qui a été réglé en dehors de l'abattage et de la vaccination généralisée, il me semble. Enfin, il y a eu des choses qui se sont passées en dehors de ces prises en charge radicales. Est-ce qu'il y a d'autres voie possible?
Là, j'ai envie de m'appuyer sur le travail des vétérinaires les plus intéressants, je trouve, aujourd'hui, qui sont regroupés au sein de ce qu'on appelle le GIE Zone Verte, qui est du coup une coopérative de vétérinaires qui interviennent sur les élevages pour aider les agriculteurs, justement, à trouver des solutions de soins qui ne soient pas entièrement dépendants de l'industrie pharmaceutique, et notamment à base de plantes, etc. Et eux, leur expertise sur la dermatose, où il n'y a quand même pas tant que ça de recul, parce que ça fait que quelques années que c'est arrivé en Europe. On la connaît mieux en Afrique, mais en Europe, on la connaît mal. Donc c'est la première chose que demande justement le GIE Zone Verte, ces vétérinaires, c'est de laisser le temps de découvrir la maladie et de chercher des solutions. Et en tout cas, ce que ce groupement de vétérinaires a pu constater avec les études internationales sur cette maladie, c'est que l'immunité s'acquiert assez facilement parce que c'est pas un virus qui mute comme les virus de la grippe très rapidement. Et du coup, jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est qu'une bête qui a été touchée une fois ne sera plus touchée par la maladie. Donc déjà, ça, c'est un élément hyper important pour mettre en place des ripostes face à la maladie. C'est qu'il y a moyen pour les troupeaux d'acquérir une immunité. Mais sauf que tous les dispositifs, que ce soit l'abattage ou la vaccination, empêchent ce processus d'immunité naturelle de se produire. Et du coup, on est en train tout le temps de fabriquer des situations extrêmement coûteuses, hein, parce que l'abattage, c'est quand même des centaines de millions d'euros qui doivent être déboursés en indemnisation. Mmh. Et la vaccination, c'est pareil. Or, il y a des solutions non coûteuses et qui ne font pas marcher le système industriel. Mmh. Et que, on l'a vu par exemple sur d'autres maladies, Xavier Noulian, qui est un collègue éleveur qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le ménage des champs », où il raconte notamment son aventure d'éleveur et d'avoir dû faire face à une maladie qui s'appelle la paratuberculose. Paratuberculose, au niveau de l'Organisation internationale de la santé animale, c'est aussi une maladie à éradication immédiate. C'est-à-dire que normalement, la France, sa politique, c'est dès qu'il y a une bête atteinte de la paratuberculose, c'est abattage total du troupeau. Noulian, avec le GIE Zone Verte, avait réussi à se battre au niveau de la préfecture pour empêcher l'abattage immédiat du troupeau et de mettre en place une politique de soins, notamment à base de plantes, pour renforcer l'immunité des bêtes. Et il a réussi à faire disparaître la maladie de son troupeau sans aucun abattage de bêtes. Donc il y a des solutions alternatives. Malheureusement, elles sont peu pratiquées. C'est une bataille. Ce groupement d'éleveurs GIE Zone Verte sont systématiquement dénoncés par l'État comme charlatans, vendeurs de poudre de palimpapin. C'est faux. Il y a un vrai travail de fond qui est fait et il y a des solutions alternatives. Sur la fièvre catarrhale ovine, le travail de renforcement de l'immunité naturelle chez les brebis est bien plus efficace que la vaccination. Mmh. Et de toute façon, on le sait, les éleveurs le savent, le nombre de bêtes vaccinées qui finissent par être malades, que ce soit pour la dermatose ou la fièvre catarrhale, démontre chaque jour en fait l'inefficacité de ces vaccins. En fait, mmh. Et malheureusement, aujourd'hui, les syndicats préfèrent en fait faire la pub de ce type de solution simpliste et bercer d'illusions en fait les éleveurs qu'il y aurait des solutions simples. Or non.
En plus, ça les dépossède complètement de la prise en charge de leur troupeau au niveau de leur santé.
C'est ça.
C'est quand même incroyable qu'ils le comprennent.
Enfin, ça s'est dégradé. Hein. Il y a 20 ans, c'était bien plus facile dans le monde de l'élevage en France de défendre ce type de pratique. Je reviens sur l'effet crise Covid. Là, je trouve atrophier le recul critique qu'on peut avoir sur les pratiques sanitaires, quelles qu'elles soient, que ce soit à l'égard des humains ou à l'égard des animaux.
C'est qui décide qu'une maladie doit engendrer des solutions aussi radicales? Qui décide de ça?
C'est là que je trouve que le mouvement agricole actuel est très faible sur essayer de décortiquer le chemin de ses choix politiques. Et que notamment, j'ai entendu personne venir dénoncer ce que j'ai appelé tout à l'heure l'Organisation internationale de la santé animale. Il faut savoir que cette organisation, dont les initiales sont OIE, pourquoi c'est OIE? Parce que il y a encore 15 ans, en fait, elle s'appelait l'Organisation internationale de l'élevage. Devenue rebaptisée Organisation internationale de la santé animale, on voit mieux, en fait, le rôle central de la gestion sanitaire dans l'organisation du commerce international, puisque cette organisation a pour but de réguler le commerce international par le biais sanitaire. Mmh. Donc c'est là que se décide que, par exemple, la maladie dermatose nodulaire contagieuse va être épinglée comme une maladie à déclaration systématique, c'est-à-dire que dès que ça arrive dans un état, l'État est obligé de déclarer la présence de cette maladie. Et en plus, le deuxième élément important, c'est qu'elle est à éradication immédiate. Donc il faut abattre systématiquement les bêtes. Mmh. Donc c'est à cet endroit-là que ça se décide. Et ce que je trouve incroyable, c'est que les syndicats ne sont pas allés essayer de dénoncer, de décortiquer c'est qui y a derrière cette organisation, c'est quels intérêts sont en jeu. Et là, on sait très bien, il y a deux gros lobbies essentiels derrière cette organisation, c'est les laboratoires pharmaceutiques et c'est les agro-industriels qui exportent à travers le monde. Et c'est eux qui fabriquent en fait ces normes pour servir leurs propres intérêts. Ce qui est incroyable, c'est que on pourrait penser que personne ne dénonce cette organisation parce qu'elle est à l'échelle internationale et qu'elle est inaccessible. Or, il se trouve que le siège de cette organisation est à Paris. Chose incroyable, aucun syndicat n'a appelé à aller manifester devant cette organisation, alors que c'est là que toutes les décisions se prennent et que ça serait l'occasion de dénoncer justement l'accaparement de ces décisions par quelques cartels de l'agro-industrie et des laboratoires pharmaceutiques. Mais je vois bien que personne ne le fait, parce que ça voudrait dire aussi peut-être mettre en critique la vaccination. Et or, ces syndicats ont l'air de vouloir se bercer d'illusions que la vaccination est la solution à tout.
Oui, ou remettre en question même le système agricole français. Ça paraît quand même assez délirant, comme ça, tout à fait d'une manière logique, de pas consommer localement ce qui est produit localement.
Pourquoi les syndicats, là par exemple sur la question de la crise sanitaire en élevage bovin, ne décortiquent pas et ne dénoncent pas l'ensemble du système? C'est que en fait tout le monde aujourd'hui a intérêt quasiment à ce qu'il continue, puisque l'exportation de viande bovine vers par exemple l'Italie ou l'Espagne est indispensable aujourd'hui au système d'élevage français. Et même pour les bio, même pour les petits, parce que en fait, par exemple en élevage laitier, quasiment aucun éleveur laitier aujourd'hui, parce qu'ils sont tous spécialisés, ne garde les veaux sur leur ferme pour faire la viande bovine. Ouais. Donc tous, en fait, aujourd'hui, à 2 jours ou 3 jours, les veaux, ils se barrent vers l'Italie, vers l'Espagne pour se faire engraisser. Et la France a délégué en fait à l'Italie et à l'Espagne cet engraissement des veaux. Et tant qu'on ne remettra pas en cause en fait la spécialisation à outrance des élevages en France. Bah, on va continuer en fait à exporter et à propager les maladies à travers le monde. Et du coup, Confédération Paysanne ou Coordination Rurale, tant qu'ils ne viendront pas dénoncer en fait cette surspécialisation et chercher des chemins alternatifs à cette spécialisation, on continuera en fait à pisser dans un violon, à demander des interventions soit vaccinales, soit d'abattage, et on ne changera rien aux données du problème.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et on continue avec Yannick Ogor qui a écrit Le paysan impossible et qui nous parle de la dermatose nodulaire contagieuse et du mouvement des agriculteurs en cours. Il y a à la fois ce combat contre le Mercosur, mais on voit aussi qu'il y a des volontés de faire venir aussi énormément et de poules, d'œufs, etc., de blé d'Ukraine. Donc tout ça sont des apports qui arrivent et qui vont complètement saper l'économie agricole française.
Oui, oui, complètement. C'est pour ça qu'on est obligé de rejoindre quand même la colère agricole qui est en train de se déplacer aujourd'hui contre le Mercosur, contre cette, ce qu'on appelle la libéralisation des échanges internationaux, parce qu'en effet, ça veut dire que l'accord avec le Mercosur promet en fait une arrivée massive de viande bovine du Brésil, parce que les coûts de production sont beaucoup plus faibles là-bas et qu'on va supprimer ou diminuer drastiquement les taxes douanières qui permettent de rééquilibrer le prix face à des concurrences déloyales comme celle-là. Et en effet, il y a un enjeu énorme à cet endroit-là, mais les syndicats en fait ratent complètement leur cible en ne mettant pas en avant c'est quoi les nouvelles règles de régulation du commerce international, parce qu'en effet on est en train de diminuer les taxes douanières un peu partout, ce qui fait qu'en effet les aliments peuvent venir d'Ukraine, du Brésil à pas cher, mais on a remis d'autres règlements en place, et que notamment les normes sanitaires sont ces nouveaux barrières douanières qu'on dit non tarifaires, c'est-à-dire que c'est ce type de gestion sanitaire va permettre de réguler le marché mondial. Et qu'en fait, la moindre des choses en fait aujourd'hui pour les syndicats contestataires, ça serait de mettre en avant l'Organisation internationale de la santé animale, c'est là que se décide aujourd'hui les types de gestion sanitaire à travers le monde, et c'est là que se décide du coup la fabrication de marchés d'opportunités, c'est-à-dire que quand une maladie touche un pays, comme par exemple la peste porcine a touché la Chine il y a quelques années, l'État chinois a été contraint d'abattre plus de la moitié du cheptel, et du coup ça fabrique un marché, un nouveau marché, dont ont profité grandement notamment les cochonniers industriels bretons, qui sont allés exporter en Chine leurs cochons. Et du coup ça fabrique des rentes de situation, en fait cette gestion sanitaire avec cette brutalité d'un abattage gigantesque des troupeaux, et que les industriels ont tout intérêt et bénéficient grandement de ces formes de gestion. Alors c'est sûr que quand la maladie tombe sur la Bretagne, les agro-industriels bretons du cochon vont pas en tirer un bénéfice immédiat. Mais si on voit ce qui s'est passé depuis 5 ans avec la peste porcine en Chine, le prix du cochon en Bretagne n'a jamais été aussi élevé que pendant ces 3-4 années, et les exploitants agricoles cochonniers ont amassé des dividendes extraordinaires. Tant que les syndicats viendront pas dénoncer ce type de gestion qui fabrique des rentes de situation extraordinaires et intensifie le développement du modèle industriel, on est en train de faire semblant de contester le monde tel qu'il va, quoi, en fait.
La FNSEA ne faisait pas du tout partie de ce mouvement, c'est ça aussi peut-être qui était intéressant dans un premier temps. Là, il commence à arriver pour essayer de récupérer cette colère, et on se demande jusqu'à quel point il ne va pas demander que les normes en termes de pesticides, de produits chimiques ne soient pas plus, souples pour la France, pour pouvoir s'adapter au marché mondial. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se négocier en ce moment.
Enfin, c'est tout le débat autour de ce qui s'appelle les normes miroirs. Soit on demande à ce que les pays qui exportent vers chez nous leurs produits respectent nos normes, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale sur ces normes environnementales, pesticides, etc. Soit, en fait, ce que réclame la coordination rurale ou la FNSEA, c'est qu'il faut diminuer les normes ici pour être concurrentiel sur le marché international. On est dans un marché de dupes, de toute façon, dans tous les cas, en fait, ce dont on est sûr, c'est qu'on ne va absolument pas freiner le commerce international, et que ni la FNSEA ni la coordination rurale ne le demandent, parce que ces syndicats sont persuadés que de toute façon c'est le rayonnement de la France et de son agriculture qui dépend de la possibilité de continuer à exporter. Du coup, on n'est pas du tout, personne n'est en train de remettre en question en fait cette logique-là.
Sauf peut-être les petits exploitants, eux qui n'exportent pas.
Oui, mais malheureusement
ils sont de moins en moins nombreux.
ils sont moins nombreux et je trouve qu'il n'y a plus aucun syndicat et c'est même pas la Confédération paysanne qui porte leur voix en fait et que malheureusement il y a très peu de mouvements indépendants qui émergent aujourd'hui dans le monde agricole et que nous on a tenté il y a quelques années avec en créant un mouvement qu'on a appelé hors normes qui justement venait dénoncer la supercherie de la gestion par les normes qui n'était pas du tout en train de protéger ni le consommateur, ni les animaux, ni rien du tout. On n'a jamais été suivi et que c'est à ce moment-là, nous on s'était mobilisés justement pour défendre et être solidaire avec des éleveurs qui étaient menacés et qui ont vécu des abattages systématiques pour non-respect de telle ou telle norme dans leur ferme. Et on n'a jamais eu aucun soutien. En fait, et que c'est pour ça qu'il faut se poser des questions de c'est quoi cet phénomène médiatique actuel, parce qu'il est douteux en termes de sincérité, puisque sur plein d'autres situations où il était en, l'abattage des troupeaux était en jeu, on a vu très peu de syndicats et aucun même venir défendre les éleveurs.
Alors justement, c'est peut-être le moment de parler de Jérôme Laronce, puisque de fait le mouvement dont tu parles, que vous aviez impulsé, comment dire, il s'est un peu confronté à une répression sauvage, brutale.
Oui, parce que en effet, la situation de Jérôme Laronce, éleveur de bovins en Saône-et-Loire en bio, qui s'est fait du coup descendre par les gendarmes. Donc ça, c'était en 2017. En fait, sa situation, c'était justement une ferme, un éleveur menacé d'abattage total de son troupeau pour non-respect de normes de traçabilité, que Jérôme Laronce avait pris le temps de démontrer leur absurdité et qu'ils ne protégeaient absolument pas le consommateur, mais seulement justement la possibilité pour les groupes agro-industriels d'exporter. Et cette dénonciation-là, en fait, a été absolument pas suivie par aucun syndicat. Il faut savoir que Jérôme Laronce était porte-parole de la Confédération paysanne à ce moment-là, et son syndicat, en fait, l'a complètement abandonné, jusqu'à même lors de la cavale, parce que la veille de la saisie de son troupeau pour abattage, Jérôme avait pris le maquis pour prendre le temps, justement, auprès des médias, de dénoncer sa situation. Et pendant cette période-là, les quelques jours de cavale, le co-porte-parole de la Confédération paysanne à l'époque n'a rien trouvé de mieux à dire à la presse que la situation de Jérôme Laronce n'était pas un problème politique, mais était un problème de santé mentale. C'est-à-dire que c'est à quel point ce syndicat n'avait rien compris ou faisait mine de rien comprendre de la dénonciation politique, de la gestion sanitaire du cheptel français, en fait, que dénonçait Jérôme Laronce. Et Jérôme Laronce est mort de des balles des gendarmes, mais de cet isolement, d'avoir été abandonné seul en race campagne par son syndicat.
Tu le disais au début, on ne peut que s'associer à cette colère agricole aujourd'hui du secteur agricole, parce qu'il dénonce justement quand même le Mercosur et il dénonce quand même par-dessous le fait que la petite agriculture, les petites fermes aussi, où ce système en tous les cas d'exportation, importation, etc., est en train de tuer le monde agricole. Le nombre de fermes diminue au profit des grandes structures. Le monde paysan est en train de mourir s'il n'est pas déjà mort.
Oui, complètement. C'est pour ça qu'en effet, il faut se joindre à cette colère, même si elle est, même si en termes de discours, elle cible mal les problèmes. Mais quand même, c'est un scandale, cet abattage. En plus, on sait que ça va pas s'arrêter là, parce que si la peste porcine arrive en France, elle est juste aux frontières, elle est en Catalogne, elle est en Italie, elle est en Allemagne. Il y a de fortes chances qu'elle débarque en France. On sait que l'élevage de porcs, et notamment les petits élevages de porcs en plein air, vont être les premiers ciblés et faire l'objet d'un abattage systématique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 15 jours en Bretagne, où un éleveur a fait l'objet de politiques préventives vis-à-vis de la préfecture des Côtes d'Armor, où il s'est fait abattre tout son troupeau parce que la préfecture a considéré que vu qu'il était en plein air, à proximité de sangliers qui transmettent potentiellement la maladie, il fallait éradiquer cet élevage, alors que la peste porcine n'est pas encore là. Donc on imagine bien quand on va être là, le travail de sape qui va être fait par l'administration. Mais là encore, en fait, j'aimerais que les syndicats qui sont aujourd'hui dans la rue soient prêts à se mobiliser de la même manière quand la peste porcine va arriver et cibler les élevages de cochons, parce qu'il y a 15 jours, alors qu'il y avait des mobilisations dans le sud contre les abattages de troupeaux de vaches, personne n'est allé soutenir le collègue éleveur de cochons quand il s'est fait abattre tout son troupeau. Parce que sans doute, c'était moins flatteur médiatiquement, et que je vois bien qu'aujourd'hui, peu de syndicats sont prêts à aller se battre sur le terrain de l'élevage de cochons contre l'abattage systématique, parce qu'il y a des tels intérêts en jeu pour que la Bretagne, notamment, ne perde pas ses agréments à l'exportation, que tout le monde va se dire non, mais allez, il faut abattre, faut pas perdre l'agrément à l'exportation.
Mais c'est quand même les petites fermes, les plus petites fermes qui s'en remettent pas de ce type de gestion.
Ah bah oui, c'est systématique. Il suffit de voir, de suivre en fait les développements de ces maladies et les effets qu'elles ont en Chine. Il y avait plus de la moitié des élevages chinois avant l'arrivée de la peste porcine étaient des élevages vivriers. Et il y avait un début d'industrialisation des élevages, mais c'était encore balbutiant. 5 ans après la crise de la peste porcine en Chine, il n'y a plus aucun élevage vivrier, ils ont été interdits, et il n'y a plus que des méga-usines de centaines de milliers de cochons, et c'est eux qui emportent les parts du marché systématiquement. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ces gestions sanitaires ne servent que les intérêts des industriels, et que c'est eux qui sont au sein de l'Organisation internationale de la santé animale, en train de jouer avec ces normes pour fabriquer des rentes de situation.
Le silence est glacial dans les tables ce matin. On a tué l'espoir et brisé le destin sur une pseudo-maladie, sur un simple soupçon. Ils ont tout abattu sans aucune émotion. 30 ans de dur labeur pour bâtir ce cheptel, détruit en un instant par un ordre cruel. Le paysan pleure seul, le cœur anéanti, voyant partir sa vie sous un ciel obscurci. Pourtant au même instant, quelle hypocrisie, on valide le Mercosur, c'est de la folie, pour importer des viandes venant du continent, bourrées de produits qu'on refuse ici maintenant. On vise la destruction de la France et ses champs, en sacrifiant nos bêtes et nos propres enfants. On monte les uns contre les autres, on divise les rangs, pour mieux briser le peuple et ses derniers élans.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel et on continue avec Yannick Ogor qui a écrit Le paysan impossible. J'aimerais, Yannick, qu'on parle un petit peu de cette mobilisation. On aurait pu penser que les vacances de Noël les affaiblissent. Pas du tout. Elles sont très, très fortes. Et là, avec un blocage 5, 6, 7 janvier, peut-être même jusque 8, des tracteurs qui convergent vers les grandes villes et qui sembleraient vouloir venir sur Paris. Mais la mobilisation reste très, très forte quand même. On a ce sentiment quand même que c'est presque une question vitale. Pas mal d'agriculteurs sentent que c'est un dernier combat à mener s'ils ne veulent pas disparaître. Alors, dans les forces en présence, principalement, il y a la Confédération Paysanne, mais principalement, il y a l'ECR, Coordination Rurale, qui est plutôt un nouveau syndicat. C'est un truc qui est né au début des années 90, il me semble, et qui est plutôt répertorié sur l'extrême droite, avec des propos relativement racistes. D'ailleurs, on le voit quand même sur le fait qu'ils demandent des chars dans les cités, pas contre les paysans. Enfin, là, il y a vraiment les quartiers très fantasmés dans la coordination rurale. Ils sont vraiment à côté de la plaque. Cette rencontre entre des syndicats aussi différents, la CONF étant plutôt sur la gauche, qui se retrouvent ensemble sur ce combat, c'est assez intéressant. Comment tu le vois, toi ?
En effet, c'est complexe à analyser l'histoire de la coordination rurale. Voilà, ils ont en commun avec la Confédération paysanne d'être à peu près exclus de tous les rouages de la fameuse co-gestion agricole FNSEA-État qui dure depuis des dizaines d'années. Et ça leur donne une espèce de virginité comme ça, de ne pas s'être corrompu dans des alliances douteuses avec les administrations ou l'État. Maintenant, qu'est-ce que défend ce syndicat ? Enfin, oui, il est clairement classé à droite. C'est plutôt des fermes assez importantes qui défendent leur développement industriel. Hein. C'est pas du tout
c'est
un syndicat qui est en train de.
Mmh.
Non, de toute façon, même la Confédération paysanne, c'est compliqué aujourd'hui de dire que c'est un syndicat de petites fermes, parce qu'il n'y en a quasiment plus de petites fermes. Du coup, mais en effet, il reste des plus petites fermes que d'autres. La coordination rurale, sa base électorale, c'est quand même pas les grosses fermes agro-industrielles de la FNSEA,
ouais.
Mais quand même, c'est pas des petites fermes. Je pense que ce syndicat s'est surtout développé en termes d'adhésion sur la base d'un sentiment de dénigrement et de déclassement qui est réel en fait dans le monde agricole, c'est-à-dire que le monde agricole fait l'objet de critiques systématiques en fait de tout le monde quasiment. En fait, il est au cœur des discussions dans les foyers permanents en fait et puis dans les médias, et que moi je comprends en fait à un moment donné ce ressentiment du monde agricole, parce que par exemple les critiques écologistes ne se portent pas du tout de la même manière à l'égard de maçons qui utilisent des produits dégueulasses comme le ciment ou les placos, à l'égard de vendeurs de smartphones qui tous contribuent en fait à détruire cette planète. Le monde agricole, lui, voilà, est sans cesse dénoncé. Avec des bonnes raisons, hein. Je remets pas du tout en cause la dénonciation du système industriel, mais je pense qu'il y a un ressentiment assez légitime en fait et que pour beaucoup d'agriculteurs sentent une continuité entre le dénigrement systématique des ploucs du milieu du siècle, des bouseux du XXe siècle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a historiquement eu quand même une déconsidération du paysan et qui se prolonge aujourd'hui avec cette facilité qu'a n'importe qui de mettre en critique le travail agricole.
Ouais,
malheureusement, ce syndicat en fait se nourrit de ce ressentiment, mais en fait une histoire qui n'est pas du tout en train de promettre la sortie de l'incarcération des paysans dans une domination des grands groupes agro-industriels et de l'État, puisque ces gens-là, par exemple, en dénonçant les normes qui, soi-disant, empêchent d'utiliser des pesticides, sont en train de dire « soyons encore plus dépendants de grands groupes industriels qui vendent ces pesticides », ce qui est une illusion absolue. Quoi. Comment être plus indépendant en demandant ce type de dépendance ? Enfin, y a un discours totalement absurde. Mais l'absurdité dans ce syndicat est à tous les niveaux, parce que tu disais tout à l'heure que c'était un syndicat ouvertement raciste, mais ce qui est tout à fait surprenant, mais en même temps, c'est que les coordinations du Sud-Ouest ont occupé, je crois que c'était la préfecture d'Agen l'année dernière, pour demander au préfet de régulariser systématiquement les sans-papiers, parce qu'il y en avait marre de devoir compter sur de la main-d'œuvre française bonne à rien, et que des crèves-la-faim de l'Afrique du Nord étaient bien plus efficaces au boulot, et que du coup, il fallait les régulariser. Alors, c'est absolument cynique, hein, et que ça n'empêche pas un racisme.
Ouais, carrément.
Derrière cette idée-là, mais en fait, c'est là qu'on voit que l'extrême droite surfe sur des illusions, c'est-à-dire que c'est censé être les partis politiques qui dénoncent l'immigration systématique, et en même temps, dès qu'ils arrivent au pouvoir comme en Italie, c'est les premiers à régulariser en bloc, justement pour fournir de la main-d'œuvre pas chère, en fait, soit aux fermes industrielles, aux usines, et que du coup, derrière ce racisme-là, en fait, il y a de la réelle politique qui se joue. C'est pas un syndicat comme la coordination rurale qui va empêcher la migration, parce qu'ils en ont besoin pour continuer leur business, quoi, en fait.
C'est compliqué pour un agriculteur aujourd'hui, coincé entre les politiques gouvernementales et puis parfois leur envie peut-être de produire différemment, et puis la réalité économique du monde agricole, c'est-à-dire des revenus super bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de débouché aidé d'une production plus écologique, moins dégueulasse d'un point de vue chimique, les agriculteurs, ils restent relativement coincés. Là, on a vu que les politiques, par exemple, qui normalement devaient permettre aux cantines d'utiliser des produits écolos, c'est pas du tout appliqué pour pas mal d'agriculteurs, peut-être même qui aimeraient passer à une production plus respectueuse de la santé, c'est pas évident pour eux.
Non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on enfin, on se rend compte à quel point les exploitations aujourd'hui sont totalement dépendantes d'éléments qu'elles ne maîtrisent pas du tout,
ouais,
quoi, que ce soit les débouchés, ou les prix, ou le coût de ce qu'ils achètent, enfin tout ça, il leur échappe complètement. Et malheureusement, en fait, un syndicat comme la coordination rurale n'est pas du tout en train de dire stop, arrêtons d'être dépendants de ce qui nous échappe, en fait, et ils continuent à investir. Ce qui est incroyable, c'est que ces fermes-là sont des fermes là où les agriculteurs gagnent quasiment rien en termes de revenus, drainent des millions de chiffre d'affaires et d'investissements chaque année, et sans récupérer les dividendes, et ne remettent pas en cause l'absurdité de cet investissement permanent. Et le comble, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied lors des mobilisations, parce que par exemple en Ariège, quand il s'agit de tenter de bloquer l'abattage dans une ferme, ils sont venus avec leur tracteur flambant neuf, coûtant des millions d'euros chacun. Et dès qu'il y a eu charge policière, en fait, les tracteurs, ils sont barrés, ils ont eu peur de les abîmer, tu vois. Enfin, du coup, c'est absurde, en fait. Ces gens-là sont à la tête, roulent avec des fortunes sur la route et continuent à foncer dans le mur, continuant leur système d'investissement. Et c'est en investissant moins qu'on devient moins dépendant de tous ces groupes industriels. Tant qu'il n'y a pas un regard lucide là-dessus, en fait, on fonce dans le mur, quoi, en fait.
Alors, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la coordination rurale, il y a aussi un fait qui peut-être est assez stimulant, c'est que c'est quand même des gens assez déterminés. Ils proposent quand même des modes d'action beaucoup plus radicales, on va dire, quand même que, par exemple, la Confédération paysanne.
Bah, c'est sûr que du coup, là, ils héritent d'une vieille histoire agricole.
Avec la FNSEA.
Qu'apparaît cette détermination, même par moment la FNSEA a été tout à fait capable de cette détermination, notamment en Bretagne, avec des mobilisations très très fortes et très spectaculaires. La coordination aujourd'hui en effet est le seul syndicat à reprendre ce type de pratique, aussi parce que ils ont du monde, en fait. C'est que la Confédération paysanne a pu être aussi l'endroit où se pratique ce type de scandale, d'action scandaleuse, mais aujourd'hui il n'y a plus personne comme base militante à la conf, et que par contre à la coordination rurale, il y a du monde, et c'est vrai que la détermination ne faiblit pas parce que en effet, il y a un sentiment qu'on est en train de vivre les dernières heures d'une certaine agriculture en France, et que ce qui menace quand même, c'est le modèle, les modèles chinois, brésiliens de fermes encore plus gigantesques que ce qu'on a déjà en France, quoi.
Ouais, avec des produits dégueulasses.
Ouais, c'est que la disparition, enfin la diminution des agriculteurs en France est loin d'avoir atteint son apogée, quoi. C'est qu'il reste encore 400 000 agriculteurs, ce qui est ridicule, mais on sait très bien que au rythme où on va, c'est à peine 100 000 agriculteurs qui restera dans 10 ans, quoi, en fait. Et que là, ça, forcément, que ça fabrique un ressentiment et un sentiment d'abandon, enfin de disparition, qui est très dur à vivre.
Leur virginité, institutionnelle, va être peut-être questionnés, puisqu'ils ont quand même remporté quelques chambres d'agriculture. Apparemment, leur gestion est particulièrement à remettre en question.
Oui, ce qu'on va voir, les chambres d'agriculture ne sont plus des lieux où il y a un pouvoir énorme, il y a surtout de l'argent qui gravite, et c'est ça qu'on pourra regarder.
Ouais.
C'est qu'est-ce que la coordination rurale
qu'est-ce qu'elle en fait
de cet argent, parce que on a surtout vu des pratiques mafieuses au sein de la coordination rurale, notamment dans le sud-ouest, et en Lot-et-Garonne. Et même, faut savoir aujourd'hui, c'est étonnant, on n'en parle pas alors qu'elle est sur le devant de la scène, mais y a tous les salariés de la coordination rurale ont attaqué au prud'homme le conseil d'administration de la coordination rurale, et qu'il y a des sommes colossales en jeu, et qu'on voit que ce syndicat ne s'embarrasse pas beaucoup de considérations vis-à-vis de ses salariés.
On va finir sur la question de le fait de se retrouver, parce qu'il y a pas mal de gens, notamment peut-être même à gauche, qui tout de suite fustige, que ce soit chez les Gilets jaunes, après sur tel ou tel mouvement, le fait qu'il y ait des homophobes, des racistes, pour discréditer le fait de rejoindre ces mobilisations. On vient de voir que tout était beaucoup plus compliqué que ça, et que peut-être c'était très certainement dans la rencontre, dans le combat commun et dans une lecture de classe qu'on pouvait peut-être résoudre ces contradictions.
Oui, en tout cas, je pense que ça serait stupide parce que il y a des uluberlus à la coordination générale qui ont un discours raciste de dire oulala, tenons-nous à l'écart de tout ça. En effet, on a des bonnes raisons aujourd'hui d'être dans la rue pour dénoncer ce qui se passe. Bah, faisons avec les forces en présence et voyons jusqu'où on peut aller dans la fréquentation de ce syndicat. Mais en tout cas, je pense que ça serait malheureux de s'empêcher de ces rencontres, a priori comme ça, juste parce qu'il y a une image nauséeuse autour de la coordination rurale. Et maintenant, en effet, il faut rejoindre ces mouvements en essayant d'amener une lecture de classe dans ces mobilisations pour qu'on arrive à décortiquer réellement et sincèrement en fait les liens de dépendance et d'incarcération dans lesquels on est pris aujourd'hui, quoi. Et que c'est ni en dénonçant comme étant des empêcheurs de mener la liberté d'entreprise à bien, ni en voulant plus de normes pour soi-disant protéger le consommateur et l'agriculteur, c'est plutôt en regardant précisément qui décide de l'application de ces normes, quels effets elles ont, et que là, si on le regarde sincèrement, c'est à chaque fois les petits qui sont en train de se faire dégommer. C'est ces politiques-là qu'il s'agit de dénoncer et arrêter de se faire des illusions sur des solutions trop simples comme la vaccination ou autre.
Quelques morceaux choisis, pris dans le podcast des éditions du Bout de la Ville qui ont publié Le Paysan Impossible, donc vous pouvez écouter sur leur site.
On peut parler un petit peu des blocages actuels.
Ouais, ici, depuis qu'il y a eu cette histoire au Bord-sur-Arize, c'est la coordination rurale quand même qui mène le mouvement, un peu comme partout en France. Mais la conf est là aussi depuis le début. Par rapport à d'autres départements, je pense ici, la CR et la CONF font front commun. Ici, en Ariège, il y a un blocage qui tient, c'est le blocage à Tarascon. Sur Ariège, l'idée, c'était de bloquer la route d'Andorre. Il y a du monde H24 là-bas. Et après, pas loin d'ici, il y a aussi le blocage de la 64, en Haute-Garonne, qui tient aussi. Là, c'est aussi un peu de la CR et puis d'autres gens aussi qui se disent non syndiqués. Ils s'appellent les Ultra 64, qui ont déjà bloqué toute cette bande l'année dernière. Moi, avec ma ferme à gérer et tout, c'est pas évident d'être sur tous les blocages tout le temps. Quand je suis allé, je croise plein de gens que je connais, de différents syndicats ou non syndiqués. En tout cas, il n'y a pas de forme d'assemblée. Comme je dis, c'est les syndicats qui mènent la danse et les chefs qui prennent la parole de temps en temps et qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut bloquer, débloquer, s'il faut continuer. En tout cas, moi, je n'ai pas participé ni entendu parler d'assemblée plénière avec tout le monde, ce qui, je pense, aurait été intéressant. Tant que les discours des syndicats et surtout celui de la CR, et on n'entend pas vraiment ce que tout le monde pense, y compris même des gens qui sont dans les deux syndicats, là, qui, je pense, ne pensent pas tous comme leur chef. Non, c'est un mouvement assez vertical. Du coup, moi, je me retrouve pas trop là-dedans quand même. Bon, les trucs qui m'ont mis le plus mal à l'aise, effectivement, c'est toutes des bandes de fachos, des influenceurs d'extrême droite en pagaille, là, qui passent leur journée à se filmer et à raconter des paquets de conneries. Du coup, moi, j'ai mis quelques temps aussi à choper des vraies informations parce que les trucs vont très vite et les gens racontent beaucoup de conneries. Et pendant un temps, pour moi, c'était dur de faire le tri. Et je sais pas en Bretagne s'il y a des trucs.
Très peu. Il y a quelques rassemblements en ville, mais pas de blocage. Bon, le contexte est particulier en Bretagne parce que l'alliance Confédération paysanne de coordination est un peu impossible à mettre en place puisque la semaine dernière, il y a eu un affrontement assez violent lors d'une réunion sur la gestion de l'eau du bassin de la Vilaine, hein, dans l'est de la Bretagne, où la CONF s'est retrouvée face à face avec la FNSEA et la coordination générale qui militaient pour avoir le droit d'utiliser les pesticides sur les zones de captage d'eau potable, alors que la CONF venait avec des citoyens écolos demander une interdiction des pesticides. Du coup, dans un contexte politique comme ça, là, aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer une alliance. Donc chacun va dans son coin et pas assez nombreux pour faire autre chose qu'un rassemblement dans une ville. sans blocage. Il n'y a pas du tout la même ampleur que dans le sud-ouest.
Ouais, cette histoire d'Union, j'ai l'impression que c'est quand même propre à l'Ariège en tout cas. Peut-être le fait que la coordination rurale, c'est un peu nouveau ici, en Ariège, que pendant longtemps, c'était quand même la FNSEA qui menait l'histoire, et suite à des embrouilles de chapelle un peu l'année dernière, il y a énormément de gens qui ont quitté la FNSEA et les JA pour rejoindre la coordination rurale. Donc aujourd'hui, ils sont très très nombreux, là où avant, ils étaient vraiment un petit groupe de gens.
Toute petite remarque, mais quand même extrêmement mal à l'aise avec la place que prend la coordination rurale, qui quand même a... Bon, un syndicat, enfin, tu vas nous en dire un peu plus, mais qui vient de la FNSEA, qui est productiviste, alors là, pour le coup, qui défend ça, qui s'en prend violemment aux gens qui se battent contre les méga-bassines, qui tient des propos ouvertement racistes, enfin, qui est super proche du RN, enfin, Xavier Nouliane, qui lui est dans un peu dans le département de naissance de la coordination rurale, là, le Lot et Garonne, nous raconte un peu qu'est-ce que c'est un département tenu par une chambre agricole qui est à la CR. C'est vraiment des gens qui déboulent chez toi, c'est des coups de pression, c'est à la fois un clientélisme et un espèce de racisme assez fou. Et c'est pour ça que c'est un peu l'objet de cette discussion, réussir à désembourber un peu tout ce contexte agricole, au moins dans l'analyse, en essayant de comprendre, bah, il faut qu'il y ait d'autres voix en fait, qui soient portées depuis le monde agricole.
Ah bon ? Moi, ces derniers temps, j'avais le sentiment d'être un peu isolé, quoi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Moi, j'ai un sentiment un peu d'impuissance, là. De ne pas avoir réussi à trouver des camarades ou de avoir la force de porter autre chose comme discours, quoi. Moi, je suis là. C'est compliqué, quoi.
Moi, ça m'intéresse d'analyser qu'un syndicat comme la coordination, qu'est-ce qui fait que ça prend à ce point-là ces derniers temps au point de devenir majoritaire dans les chambres d'agriculture dans une vingtaine de départements. C'est pas rien. Hein. Enfin, la FNSEA, c'est la première fois dans l'histoire de l'agriculture moderne française que le syndicat dit unique, qui n'a jamais été unique, mais qui a été hégémonique, a pris une telle claque. Et pas on peut s'en satisfaire, mais sauf qu'il faut regarder qu'est-ce qui est en train de naître à côté. Et l'histoire de la coordination, c'est une histoire complexe. Je pense qu'on peut en effet l'épingler d'extrême droite aujourd'hui. C'est vrai d'une partie de ses instances. Je pense que c'est plus intéressant de regarder d'où elle vient, comment elle a évolué, pour comprendre en fait c'est quoi ce rapprochement de ce syndicat avec l'extrême droite. Parce qu'au départ, elle naît en fait en 91 d'une contestation de la PAC. Une contestation pas si éloignée de la contestation que portait la gauche paysanne, avec à l'époque la Confédération paysanne, avec une radicalité plus grande dans la manière d'intervenir. C'est-à-dire que c'est vraiment des déçus de la FNSEA que ceux qui sont à l'origine de la coordination rurale, c'est pas les petits paysans qui allaient plutôt du côté de la gauche paysanne, c'est des gens bien inscrits dans l'économie capitaliste agricole, mais qui était aussi sous la menace de disparition face aux mutations féroces liées à la PAC et qui ont refusé toute forme de cogestion en fait radicalement, quoi. Alors que la conf a, dans son discours, refusé la cogestion, mais a tout le temps essayé de négocier des chemins parallèles ou des chemins de traverse avec un discours très critique de la gestion administrative, que ça soit à l'échelle Union européenne ou à l'échelle française, mais pour défendre un modèle productiviste. Ils ne sont pas que des dominés, ces chefs d'entreprise agricole. Ils ont aussi fait des choix capitalistes, donc l'histoire n'est pas si simple que ça. Moi, le regard que j'ai, c'est que la gauche paysanne, en ces temps, accaparée, appropriée la critique écologiste, elle a beaucoup fait pour entretenir ce ressentiment et que surtout ce ressentiment de gens qui se sentent déclassés n'a pas du tout pris la direction de la gauche paysanne, puisque elle se faisait le relais d'une écologisme urbaine regardant l'agriculture comme des ploucs, des salauds qu'il fallait éduquer pour qu'ils arrêtent de faire de la saloperie. Tant qu'on n'aura pas un regard critique sur ce que l'écologisme du début du 21e siècle a fabriqué comme ressentiment, ça peut, tout ça pue, mais sauf que en fait on a du mal à comprendre et à changer de stratégie pour arrêter de faire en sorte que ce ressentiment de déclassé finisse sans cesse à l'extrême droite, quoi, en fait.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.